autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour nous pencher sur le sang aujourd'hui. Oui, le sang, notre sang, ce fluide vital, omniprésent et si précieux, qui coule dans nos veines, signature de la vie, comme de la mort quand il s'échappe. Révélateur de nos maladies, porteur de notre identité et de notre hérédité, mais aussi de nos mythes et de nos symboles, sans oublier nos guerres et nos victoires médicales. Le sang charrie toute notre histoire, physiologique et psychique, scientifique, symbolique et artistique. Du sang sacré du Christ à celui sauveur des transfusions, en passant par le sang versé sur les champs de bataille et celui contaminé par les virus, sans oublier l'hémoglobine, si chère au film gore. Qu'il effraie ou qu'il inspire, le sang est toujours chargé de mystère. Il était une fois le sang. C'est le titre de l'ouvrage à nul autre pareil, coécrit par nos invités, les professeurs en hématologie Olivier Garraud et Jean-Daniel Tissot, qui sont en duplex avec nous autour de la question « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sang, pur ou impur, bienvenue !»
Allez, action ! Allez, du sang ! Pompe ! Du sang, tu pompes, plus de sang, plus, les yeux exorbités, plus que ça, voilà. Ça, c'est bien, ça. Vas-y, redescends, laisse-toi tomber, voilà. Un peu, le pouls. Top, voilà. Coupé.
Du sang qui coule à gogo dans cette scène irrésistible du film Camille Redouble. Voilà qui nous met dans le bain de sang, évidemment, car il n'est pas interdit, et heureusement, de rire de ce qui nous fait peur et de ce que nous connaissons si mal. Ce sang qui coule dans chacune de nos veines, qui s'écoule de nos blessures, de la naissance jusqu'à notre mort. Il était une fois le sang. C'est le titre de cet ouvrage génial que vous venez d'écrire à quatre mains aux éditions Humaine Science et dont nous avons, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous offrir. Il vous suffit de nous les demander par mail ou sur notre page Facebook. Bonjour professeur Olivier Garraud.
Bonjour.
Bonjour professeur Jean-Daniel Tissot.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être en duplex avec nous. Alors pour vous, professeur Jean-Daniel Tissot, depuis les studios de la RTS, la radio-télévision suisse à Lausanne, vous êtes médecin interniste, hématologiste et spécialiste en médecine de laboratoire, professeur émérite à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, dont vous avez aussi été le doyen. Vous avez dirigé pendant 10 ans le service vaudois de transfusion, dont vous savez de quoi vous parlez. Même si ce sang auquel vous avez consacré votre carrière, sur lequel vous continuez de mener des recherches, fait toujours un peu, je ne sais pas si c'est vraiment peur, mais l'hématologiste que vous êtes n'aimez pas la vue du sang, cher professeur. Ce n'est pas un secret, hein, vous n'aimez pas ça.
Non, et j'ai beaucoup de peine à aimer le sang qui est répandu dans le cas de blessures, dans le cas de traumatismes. Je préfère le regarder à travers un microscope ou le regarder dans un tube, mais dans le réel qu'il est quand il est dans notre corps et autour de notre corps, avec notre corps de manière anormale, il me fait, comme pour beaucoup d'entre nous, un peu peur.
Ce sang, alors, qui charrie tant de peur, tant de mystère, mais aussi toute une symbolique, ce n'est pas un fluide comme un autre, il était une fois le sang. Professeur Olivier Garraud, merci à vous d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Limousin à Limoges. Alors pour vous aussi, le sang, c'est la vie, comme pour nous d'ailleurs, mais pour vous c'est toute votre vie de médecin-chercheur. Vous êtes immunologiste et hématologiste, professeur à la faculté de médecine de Saint-Étienne et à l'Université de Lyon, où vous enseignez également l'éthique médicale. Vos champs d'intérêt et de recherche sont larges, d'autant que vous vous intéressez aussi à la symbolique, aux représentations symboliques et artistiques du sang, en peinture notamment. J'ai envie de dire que le sang nous inspire finalement le meilleur comme le pire. Il est à la source de tous nos maux, ceux de notre humanité, mais aussi à la source d'avancées en médecine, de nos religions, de l'art en général. Le sang, c'est un peu tout ça à la fois, Olivier Garraud.
Tout à fait. Mais en vous entendant, l'image d'un fil conducteur me venait. Je pense que le sang est vraiment un fil conducteur. On est dans le sang. Il y a du sang qui s'écoule lors de l'accouchement. Mmh. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, le sang continue à s'écouler un tout petit peu de temps après la mort constatée. Et puis, entre les deux, elle ne cesse pas de couler avec ces événements intercurrents qu'on essaie d'éviter, les blessures et les hémorragies internes. Et ça, c'est notre métier, de pouvoir contrôler tout ça et d'aider les patients à ne pas souffrir de ces perturbations.
Des perturbations de ce fluide, c'est ça, on parle de fluide quand on parle du sang, même si ce n'est pas un fluide comme les autres.
C'est un tissu qui est fluide. La plupart des tissus auxquels nous faisons fréquemment référence sont des tissus solides, ils ont une matière, un contact, on peut appuyer dessus, ils sont plus ou moins mous, plus ou moins durs comme les os. Et le sang, c'est un tissu, mais c'est un tissu qui est liquide et qui s'écoule, c'est ça sa grande particularité.
C'est un tissu. Vous démarrez cet ouvrage dans la préface. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment à quatre mains. Donc, je ne sais pas si c'est Jean-Daniel Tissot ou Olivier Garot qui l'avait rédigé. Mais vous dites dans la préface, notre corps abrite un océan. Jean-Daniel Tissot ?
C'est réellement ceci. C'est que l'océan, c'est aussi relativement difficile à explorer, même si tout le monde peut le voir quand il est sur la rive. Regardez les vagues, regardez la mousse qui est là. Mais que se passe-t-il dans les profondeurs? Quelles sont les températures? Quelles sont les couleurs? Comment elles évoluent en fonction de la lumière et du temps? Et je pense que vraiment, c'est le même type de mystère. C'est quelque chose aussi comme les océans qui pulsent. Hein, le sang dans nos artères ne s'écoule pas d'une manière tranquille. C'est comme dans les vagues des océans, il y a une espèce de flux continu, pulsé. Et je pense que cette comparaison me paraît extrêmement importante parce qu'elle évoque en nous finalement le symbole de la vie. Et la vie est née peut-être dans les océans, la vie est transmise avec le sang et par le sang. Et je pense que cette analogie est importante à faire et nous simplifie peut-être le discours.
Et le sang, alors vous l'avez dit, évidemment, ça ne se voit pas, c'est-à-dire qu'il coule dans nos veines. Nous avons 5 litres de sang, hein, c'est vous qui l'écrivez dans cet ouvrage à nul autre pareil. On ne le voit pas, c'est aussi pour ça qu'il fait peur. Au fond, on le voit quand il s'écoule et quand il sort, et c'est ça qui nous fait peur, Olivier Garot ?
Absolument, oui. Alors on l'aperçoit, on le voit pas, mais on l'aperçoit un petit peu, il nous donne quand même une coloration. Il nous permet d'être rosé, en tout cas pour les personnes d'origine caucasienne, qui ont une peau relativement transparente. Et puis, c'est vrai que quand ce sang s'écoule, alors il ne doit pas s'écouler normalement à l'extérieur.
C'est
à l'extérieur,
ça,
hein. tout est prévu pour que quelque chose l'arrête. C'est ce caillot que vous connaissez, c'est celui que nous connaissons tous lorsqu'on s'est fait une petite coupure, très très vite. Chez les personnes bien portantes, très vite, il y a un petit clou qui est initié par des plaquettes qui se forment. Et donc, ça s'arrête. Sauf, et on y reviendra tout à l'heure, le sang des règles, où il est bien prévu à ce moment-là qu'au contraire, il ne s'arrête pas et qu'il puisse s'écouler. Mais ça, c'est un sang de nettoyage de la muqueuse utérine. Et c'est, donc, à ce moment-là, il y a des anticoagulants qui se font pour que ça s'écoule.
Autour de la question de tous ces sangs, qui s'écoule, qui coule dans nos veines. On compte sur vous deux pour nous éclairer. Alors d'abord physiologiquement, avant de s'attaquer à toute la part symbolique, voire sacrée du sang, en répondant d'abord à cette question apparemment simple de mon confrère Mathieu Novak, rédacteur en chef du magazine Science et Avenir.
Dites-moi, selon vous, pourquoi les groupes sanguins ? Apparemment, on ne sait toujours pas ni vraiment à quoi ils servent, ni s'ils ont des conséquences bénéfiques ou néfastes pour la santé. Est-ce qu'on a une recherche sérieuse qui avance là-dessus ?
Qui veut répondre à cette question ? Olivier Garot, Jean-Daniel Tissot ?
Je veux bien commencer, Olivier.
Alors vas-y, Jean-Daniel.
Jean-Daniel Tissot.
Oui, volontiers. Je pense que les groupes sanguins ont évolué parallèlement à l'humanité et à la vie. Ils sont les reflets d'histoires anciennes, de gènes qui ont été exprimés, d'utilité à l'occasion. Et puis, ce qui les caractérise, me semble-t-il, et qui est très important à la fois dans le réel biologique et puis le réel symbolique, c'est qu'ils permettent d'avoir des différences entre nous tous. Nous sommes tous différents dans la communauté humaine. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Ces différences peuvent tuer. si on regarde des transfusions qui sont incompatibles dans les groupes sanguins ABO, qui est une sorte de guirlande qui se trouve sur les globules rouges et qui dépend d'un certain nombre de gènes, c'est relativement simple. Maintenant, on connaît bien ces groupes sanguins ABO, mais leur utilité reste un élément très discuté et discutable. Ce qu'il faudrait peut-être préciser, c'est pas parce qu'on est capable de prélever du sang facilement que tout ce qui s'exprime sur nos globules rouges ne s'exprime que sur nos globules rouges. Le groupe sanguin ABO, que tout le monde connaît en principe dès qu'il a eu une analyse, en fait ce sont des groupes tissulaires. Nous avons ces déterminants sur tous nos tissus, ils font tenir compte parfois lors de transplantation d'organes solides. D'autres antigènes font partie de l'expression de protéines sur nos cellules qui ont des fonctions et comme systématiquement la nature essaye d'évoluer, mute, teste, essaye de trouver des éléments qui vont nous porter des avantages. Nous avons ces diversités qui peuvent être maintenues, qui sont l'expression justement de cette plasticité de notre génome et peut-être qu'il n'y a pas d'autres fonctions. En revanche, pas mal de bactéries, pas mal de virus ou d'autres éléments arrivent et tirent parti de ces substances qui sont sur nos globules rouges, sur nos plaquettes, globules blancs, pour essayer de pénétrer à l'intérieur de nos cellules, pour essayer de les violer et pour essayer justement de pouvoir les détruire. Donc finalement, c'est une interaction très étrange que nous avons à travers nos groupes sanguins entre notre vie intérieure et notre vie extérieure et qui a perduré au fil des années et qui perdure sur tous les continents quand on va regarder la distribution des groupes sanguins ABO qui varie extrêmement d'une population à l'autre selon son origine. Et je pense que c'est très intéressant. On n'a plus fait de très grands progrès sur l'utilité de ces groupes sanguins. En revanche, on a fait d'énormes progrès sur leur fonction, parce que ce sont des protéines ou ce sont des glycoprotéines ou ce sont des sucres qui ont des fonctions biologiques extraordinairement bien décrites et bien comprises maintenant dans l'histoire. Mais est-ce que nous sommes dans une vision utilitariste? Je pense que c'est on n'a pas la réponse à donner définitivement. On a fait des associations de certains groupes sanguins et maladies, ça reste des associations qui peut-être illustrent le fait que nous avons survécu à des pathogènes il y a bien longtemps qui ont disparu.
Ça serait peut-être le cas même pour ce qui concerne l'épidémie, la pandémie qui nous frappe en ce moment de coronavirus. Peut-être que certains groupes sanguins seraient plus épargnés ou que les virus n'aimeraient pas certains groupes sanguins, on peut le dire comme ça.
On l'a dit, il y a des études qui le prouvent et d'autres qui le contestent. Et je pense qu'il faut être extrêmement modeste par rapport à ces associations groupes sanguins maladies, même s'il y a des tendances qui sont clairement établies, mais qui ne sont pas définitives. Et puis, ce qui nous concerne maintenant avec le virus SARS-CoV-2 responsable de la COVID, il y a eu des associations qui ont été décrites par certains auteurs dans certains pays et qui ont été contestées par d'autres. Donc, je ne ferai pas d'association définitive par rapport à l'épidémie qui nous touche actuellement.
Donc, question ouverte. Olivier Garraud, vous avez travaillé, je crois, à l'Institut Pasteur au Sénégal, à Dakar, parce que certains pathogènes, est-ce que certains pathogènes alors qui circulent dans notre sang, on pense notamment au paludisme, est-ce qu'ils aiment certains groupes sanguins plutôt que d'autres ou est-ce que le sang est aussi un véhicule pour certains virus?
Alors oui, tout à fait. Alors, la question est extrêmement complexe. Le paludisme groupe sanguin, c'est compliqué. Il y a des interactions très compliquées entre en particulier les parasites du paludisme et les globules rouges d'un côté, les globules blancs de l'autre et des plaquettes, la troisième famille, encore d'un autre côté. Donc ces parasites peuvent être arrêtés en particulier dans des petits vaisseaux du cerveau, de la rate, des poumons. Et c'est en partie ce qui rend compte de l'expression de la maladie. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a aussi tout un tas de virus qui sont dans des corrélations étroites. Jean-Daniel Tissot l'a dit aussi avec certains agents infectieux.
Le sang est un mouchard. C'est un des titres de chapitre de votre ouvrage. Il était une fois le sang est un mouchard. On le voit, enfin vous le voyez plus exactement dans nos analyses de sang, parce que nous, on est souvent complètement perdus. Alors vous nous aidez dans cet ouvrage, entre autres, à décrypter un peu pourquoi le sang est un mouchard. C'est d'ailleurs le sous-titre aussi de votre livre. Il révèle notre santé et notre hérédité. Le sang, c'est vraiment un mouchard.
Oui, c'est un mouchard dans la mesure où d'abord, c'est le matériel le plus accessible, en fait, pour pouvoir rechercher l'ensemble de nos gènes. Donc, il suffit d'un peu de sang avec quelques cellules qui contiennent de cette fameuse ADN, alors pas dans les globules rouges ni dans les plaquettes où il n'y en a pas, mais dans les globules blancs en particulier, et où on peut, en faisant s'exprimer par des techniques de laboratoire, on peut cartographier l'ensemble des gènes d'un individu, donc sa carte d'identité la plus fine qu'on puisse obtenir actuellement. Et puis, dans le plasma en particulier, il y a beaucoup de produits qui sont solubles, alors tout un tas de produits qui sont nécessaires à l'équilibre de notre vie. Et puis, il y a des traces de tout ce que nous avons pu absorber, les médicaments, les hormones, les toxiques, les polluants, ce qui fait qu'il y a quelques années, il y avait des projets qui visaient à étudier, par exemple, des expositions de populations données à des toxiques données en récupérant du sang dans des biotech sur plusieurs années pour voir quelles étaient les traces de toxiques résiduels, ce qui pourrait faire rougir de honte un certain nombre d'élus et de politiques qui avaient affirmé qu'il n'y avait pas de risque, par exemple.
Et oui, c'est ça. Donc jusqu'où nous entraînera le sang? Et voilà pourquoi le sang est révélateur, donc de notre santé, on le comprend bien, de notre hérédité, de notre identité. C'est un peu tout ça à la fois aussi, ce fluide qui coule dans dans toutes nos veines et qui est différent pour chacun, on l'a bien compris, et qui finalement change aussi, on va le voir, au cours de la vie. On continue, si vous voulez bien, de s'interroger justement sur ce sang qui coule dans nos veines, sur la manière dont les guerres et les blessures sur les champs de bataille ont fait avancer nos connaissances, sur la façon dont le sang, lui aussi, on va le voir, il vit, il meurt dans notre corps comme dans nos représentations, notamment cinématographiques. Allez, on commence par s'arrêter sur votre choix musical, Olivier Garot, pas Gore du tout, puisqu'il s'agit de l'ami Peter Gabriel qui nous envoie au paradis, Blood of Eden sur RFI.
I caught sight of my reflection, I caught it in the window. I saw the darkness in my heart, I saw the signs of my undoing. They had been there from the start, and the darkness still has work to do. Knotted cords untying, the heated and the holy, oh, they're sitting there on high, so secure with everything they're buying. In the blood of Eden lie the woman and the man, the man and the woman.
Of Eden, Peter Gabriel sur RFI. Ça fait du bien, par où ça passe. Merci pour ce joli choix musical, professeur Olivier Garot. Vous êtes notre invité en duplex avec le professeur Jean-Daniel Tissot. Il était une fois le sang, c'est le titre de votre ouvrage fascinant, publié à quatre mains, donc aux éditions Humaines Sciences. Ouvrage où nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs et auditrices, un exemplaire à vous offrir. Chers amis, donc, qui avez l'esprit libre et le sang chaud ou froid, c'est selon. Autant autour de la question comment le sang coule dans nos veines. Nouvel éclairage tout de suite en forme de question de la professeure Pascale Cossard, microbiologiste à l'Institut Pasteur, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Pascale Cossard était récemment notre invitée et elle aussi se pose encore plusieurs questions sur le sang.
Ce que ça m'inspire, le sang, c'est que en fait, c'est un liquide qui contient des composants qui ont des durées de vie extrêmement variées. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que finalement, il peut véhiculer des composants qui vont arriver à des endroits du corps à toute vitesse et des composants qui ont une durée de vie extrêmement faible. Par exemple, ces polynucléaires qui sont les premiers à arriver à un site d'infection et qui ont une durée de vie extrêmement courte. C'est ça qui est très intéressant dans le sang, c'est que c'est la vie dans le corps, quoi. C'est la diffusion, la dissémination de molécules extrêmement importantes. Donc les questions que j'aurais à leur poser, c'est est-ce que vraiment on connaît toute la composition du sang au cours de la vie d'un homme ? Est-ce qu'il y a encore des grandes questions qui se posent ?
Alors, qu'est-ce qu'on sait du sang et de sa composition ? Comment évolue-t-il au cours de la vie ? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, peut-être tous les deux, Olivier Garraud, Jean-Daniel Tissot.
Je veux bien commencer. C'est clair que Jean-Daniel le sang... Tissot. Volontiers. Le sang commence durant la vie fœtale. Donc, quand le fœtus est dans le ventre de sa mère, très tôt apparaissent des globules rouges, apparaît une hémoglobine qui est particulière, qui est capable d'aller piquer l'oxygène à la maman et de délivrer dans les tissus du fœtus. Et l'hémoglobine va changer au cours de la vie fœtale. Donc, déjà dans cette courte période où l'homme n'est pas encore en vie terrestre, mais est protégé par sa maman, le sang va évoluer extrêmement rapidement. Dès la naissance, l'enfant sera confronté à plein de pathogènes. Et durant la grossesse, la maman a produit des anticorps qui ont passé à travers le placenta et qui le protègent contre certaines infections. Et puis, dès le moment où l'enfant va devoir se défendre seul, il devra fabriquer ses propres anticorps. On va voir la taille des différents éléments, notamment des globules rouges, qui va diminuer. Ils sont plus grands durant la vie fœtale qu'à la naissance. Différents groupes sanguins vont apparaître, qui sont absents du globule rouge. Il y a les anticorps du système ABO, qui sont des anticorps qu'on appelle naturels, vont apparaître durant les premiers mois de la vie. Et tout au long de la vie, il y aura des modifications assez subtiles du sang. En revanche, ce qui est absolument incroyable, c'est que l'on peut transfuser des fœtus, notamment quand il y a des anémies sévères qui sont liées à des conflits fœto-maternels avec des anticorps anti-rhésus.
On peut le transfuser dans le ventre de la mère.
Dans le ventre avec du sang d'adulte. Donc, c'est absolument incroyable. Mais toutes les cellules que l'on a, que ce soit les globules blancs, les plaquettes ou les globules rouges, ont des vies déterminées, qui sont déterminées par certains destins de chacune de ces cellules. Mais toutes les protéines ont aussi des vies qui sont différentes. Les différents types d'anticorps ont des vies aussi qui sont plus ou moins longues. Il y a des molécules qui ont des vies très, très courtes, d'autres très, très longues. Et finalement, qu'est-ce qui fait... Pourquoi on produit des globules rouges, des plaquettes ? On a quelques idées de leur régulation, partie l'oxygène qui est présente. On a beaucoup moins d'idées de qu'est-ce qui permet à l'organisme de dire maintenant c'est le moment de se débarrasser de cette protéine ou de cette cellule. Il y a des mécanismes qui ont été décrits, notamment en termes d'oxydation, des modifications de structures très fines qui nous disent c'est le moment maintenant que cette cellule soit éliminée. Mais c'est une danse de la vie continuelle au sein de la vie.
C'est une danse de la vie, à l'intérieur de notre corps. Et les questions qui se posent, allez-y, Jean-Denis Tissot.
Restent pertinentes telles qu'elles ont été évoquées par
Pascale Cossard.
François, c'est extrêmement important d'essayer de comprendre, parce que toute la mort dans notre propre corps signifie aussi que nous sommes finis. Chaque cellule qui va se diviser au niveau de notre moelle aura une cicatrice et une empreinte du fait qu'il y a une division, les modifications des chromosomes vont arriver. Donc finalement, cette tension qu'il y a au sein du temps dans notre propre corps nous lie peut-être à cette notion étrange et difficilement perceptible qu'est le temps qui se passe à l'extérieur de notre corps. Mais nous tous voyons qu'au fil du temps, nous vieillissons, notre sang vieillit.
Notre sang vieillit, oui.
Oui, Oui, il y a des maladies qui vont apparaître qui sont liées au vieillissement du sang, au même titre que les gens ont une denture qui ne tient pas nécessairement pour une vie à 80 ans. Pour nos globules rouges, il y aura quelques éléments. Il y a des syndromes qu'on appelle myélodysplasiques qui apparaissent, qui sont liés à toute la toxicité qui nous environne, ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, mais surtout les rayonnements, les toxiques qui nous ont pris et qui modifient au fil du temps.
Le sang évolue, c'est vraiment la vie à l'intérieur de nous qui se transporte avec le sang, enfin on peut le dire comme ça. Le sang évolue, le sang, il y a la vie et la mort du sang, hein. C'est un chapitre dans votre ouvrage aussi. C'est vraiment, ça évolue, c'est pas du tout... c'est quand même extrêmement complexe et on est loin d'en avoir percé tous ces mystères. C'est peut-être pour ça aussi que ça nous impressionne tant que ça. Ça nous renvoie vraiment... à notre vie, à notre naissance et à notre mort.
Je laisserai la parole ensuite à Olivier, mais il y a quelque chose qui me frappe dans notre sang. Si je prends maintenant une goutte de votre sang, vous avez des globules rouges très jeunes et des globules rouges très âgés. C'est l'ensemble des jeunes, des moyennement jeunes et des globules rouges âgés qui font cette société du globule rouge qui fonctionne. Donc j'ai envie de rapporter cette symbolique évidemment à notre société. Les jeunes sont indispensables aux personnes âgées, les personnes âgées aux jeunes, au même titre que ça se passe dans nos vaisseaux tous les jours.
C'est de la diversité au fond aussi à l'intérieur de nos vaisseaux. Est nécessaire. Olivier Garraud, vous voulez compléter, ajouter quelque chose?
Juste peut-être une idée que j'avais en entendant mon ami Jean-Daniel. Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, moi, c'est cette capacité à un moment donné que les cellules sanguines se mettent à dévoiler une protéine qui s'appelle, alors au début elle s'appelle Eat Me Not, c'est-à-dire ne me mange pas.
Et puis ensuite,
ne me mange pas. Et ensuite, à partir du moment où cette molécule n'existe plus, eh bien il y a un signal qui s'appelle Eat Me. Donc mange-moi, qui est envoyé aux cellules, en particulier de la rate, du foie, éventuellement du poumon. Et je trouve ça absolument fascinant, cette régulation. Alors on commence à connaître un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que pour les cellules qui se divisent, eh bien, chaque fois il y a une petite empreinte qui se fait sur les chromosomes, hein, qui se raccourcissent. Et alors c'est plus compliqué pour les cellules qui ne se divisent pas, comme les globules rouges et les plaquettes. Encore que les plaquettes peuvent peut-être, dans certaines conditions, se diviser un tout petit peu. Mais bon, c'est un monde fascinant et vous voyez encore tellement de choses à découvrir.
Et oui, autour de la question comment nos connaissances, justement, sur le sang, qui, eh ben, on vient de le dire, charrie encore tellement de mystères, ont-elles évolué? Alors là encore, j'ai envie de dire, on en revient toujours à ça quand on tire ce fil du sang. C'est entre effroi et fascination. C'est sur les champs de bataille, dans toutes les effroyables boucheries des guerres, que ce soit les guerres napoléoniennes, la guerre de 14, les suivantes, que les médecins, les chirurgiens ont fait avancer les connaissances et les pratiques. Et notamment, en sont arrivés évidemment à celle de la transfusion. On y revient juste après une scène bien gore, à ne pas mettre entre toutes les oreilles, extraite du film de Steven Spielberg « Qui a tué le soldat Ryan ?». Nous voilà en 1944, sur le champ de bataille du débarquement de Normandie, dans la pagaille, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le médecin de guerre américain Wade vient d'être touché.
Putain de merde!
Bon, les sous-familles, allez, mettez les sous-familles là-dessus.
Je lève,
Wade.
Écoute ma voix.
Tu vas t'en sortir.
Viens ma voix et tu vas pas tomber.
Tu vas t'en sortir.
Du coup, c'est allé.
Wade, tu vas bien. Tu vas rentrer sur un bateau.
Encore un peu de sulfa. Fais-lui encore un peu de sulfa. Ça va aller, Wade.
Levez mes jambes.
Ça va aller. Fais-lui les jambes.
Je lève.
Ça va aller, Wade.
Fais-le.
Voilà.
Ça va aller, tout bidon. Bam, ton bidon, dépêche.
Ça va très bien, tu vas voir.
Donne-le-moi.
On va te sortir de là.
Appuie-tu.
Ça va aller.
J'ai reçu une balle, ça a l'air grave.
Donne-lui la morphine.
De quoi ça a l'air?
Ça va.
De quoi ça a l'air?
Ça va aller, je te jure.
Tu vas t'en sortir. Je vais te filer un peu de morphine. Voilà la morphine. Je peux être touché à la colonne.
Wade, tu as une plaie ouverte. Elle est dans le bas du dos.
Quelle taille a le trou?
À peu près de la taille d'une noisette.
Ça va.
Bon, c'est reposez-le.
Appuyez bien dessus. Ouais, là, ça va. Est-ce qu'il y a un endroit qui saigne plus que les
autres? Oui, ici. Tu sais ce que c'est?
Non.
Juste ici, tiens. Un pansement. Pansement dessus. Ici, c'est ça.
Voilà.
C'est juste là.
Oh mon Dieu, mon foie! C'est mon foie qui touche.
Il faut sauver le soldat Ryan, c'est ça, hein, le titre exact du film de Steven Spielberg, pour illustrer, hein, cet extrait, pour illustrer le fait que C'est en faisant couler le sang sur les champs de toutes les terribles batailles que les hommes ont menées que l'on a appris, Jean-Daniel Tissot et Olivier Garot, à soigner, à opérer, à garrotter et puis à transfuser.
Oui, alors je vais commencer cette fois-ci.
Et, Olivier Garot.
on se complétera. c'est vrai que c'était épouvantable. On a du mal à imaginer, c'était épouvantable de mourir comme ça en quelques minutes parce que le sang coulait et puis une fois qu'il y en a trop qui est parti, il n'y a plus assez de volume pour faire fonctionner la pompe cardiaque. Mm-hmm. Donc on a pu imaginer de pouvoir faire fonctionner cette pompe cardiaque en rajoutant des choses. Mais pour ça, il faut que ça tienne, il faut que ça ne crée pas de lésions, il faut que ce soit compatible. Et d'où les... Alors, il s'est passé plusieurs siècles pendant lesquels il y a eu des tentatives plus ou moins réussies, avec des idées parfois géniales, d'autres beaucoup moins, jusqu'à ce qu'on ait pu réaliser, grâce à Landsteiner, qu'il y avait quatre catégories, enfin au début il en a trouvé que trois, puis une quatrième s'est rajoutée, catégories qui permettaient finalement d'assortir les sangs des différents humains en permettant que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de dommages. Alors quelque chose qu'il faut quand même rajouter, que j'aime beaucoup rajouter, c'est que la nature ne nous a pas prévu ni pour qu'on échange nos sangs avec quelqu'un, ni pour qu'on échange un cœur, un rein ou un foie. Donc du coup, elle a évolué pour son propre compte, comme on le disait en début d'émission, et elle a laissé évoluer un certain nombre de groupes sanguins qui nous sont nécessaires, mais on n'était pas supposé rencontrer ceux de quelqu'un d'autre.
C'est ça, oui.
Il a fallu faire avec. Voilà. Il a fallu faire avec. Et grâce au progrès, aux découvertes de Landsteiner, on a pu commencer à faire avec. Puis ensuite, il a fallu... faire en sorte que ce sang puisse être passé d'un individu à l'autre. Alors, comme on ne savait pas le conserver au début, on le passait d'un bras à l'autre avec des tuyaux, dont certains ont été assez astucieux. Puis ensuite, il a fallu transporter ce sang. Donc, il a fallu le transporter dans du verre. Mais dans du verre, il coagule. Il a fallu inventer les anticoagulants. Et tout ça s'est fait quand même dans les 18 premières années du
20e siècle.
Et puis, vous l'avez aussi dit, on ne va pas refaire toute l'histoire, on n'en a pas le temps, mais chaque guerre a apporté son lot de progrès. Par exemple, c'est au moment de la guerre de Corée, avec les transports en hélicoptère, que le sang dans les flacons de verre ne pouvaient pas supporter la pression d'altitude des hélicoptères. Donc, il a fallu en trouver des flacons souples. Ce sont les plastiques que nous connaissons maintenant. Et ainsi de suite. Donc, jusqu'aux guerres d'Irak, d'Afghanistan, qui ont permis à nos collègues militaires qui sont très contributeurs de la recherche en transfusion sanguine d'amener des progrès. Alors, ils sont peut-être moins visibles, moins spectaculaires, on va dire, mais ils sont néanmoins très importants.
Et qui permettent aussi, et je vais quand même continuer avec vous, Olivier Garot, sur cette question, puisqu'on parlait de transfusion, qui permettent aussi le don du sang, qui est une formidable... c'est formidable qu'on puisse donner son sang. Vous travaillez notamment sur tout ce qui sont les questions éthiques. Vous consacrez aussi à cette question un passage de votre ouvrage, parce que c'est le don du sang. On est bien d'accord, ça se donne le sang, et ça ne se vend pas.
Ah oui, nous sommes, comme vous l'avez dit, c'est un ouvrage à quatre mains et Jean-Daniel Tissot et moi sommes très en ligne sur ce sujet-là. Oui, le sang, ça se donne parce que c'est un facteur de vie. Donc la vie, ça ne se vend pas, c'est pas monnayable. Alors bien sûr, quand ça se monnaie, on connaît. On a monnayé des vies humaines, ça s'est appelé l'esclavage, ça s'appelle la prostitution, ça s'appelle... Il y a d'autres formes modernes de ces exploitations de l'homme par l'homme, mais là c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'une personne, un frère en humanité, on va dire, comme ça, puisse aider quelqu'un d'autre. Donc pour ça, le meilleur moyen qu'on ait trouvé, c'est quand même de le donner. On est donneur, mais on peut être receveur aussi à un moment donné,
parce que quand on est bien portant,
on peut être en position de donner, mais qui sait si on va pas être en position de recevoir.
Jean-Daniel Tissot, vous voulez rajouter quelque chose que vous aussi beaucoup travaillé autour de ces questions de transfusion.
Oui. Avec plaisir, je ferai une phrase extrêmement brève. Je pense que le don du sang fait deux choses. C'est à la fois apporter du sens à ce don et puis apporter de la vie. Même si maintenant l'essentiel des produits sanguins qui sont utilisés sont des supports ou des béquilles de vie, finalement c'est pas la transfusion qui redonne la vie, mais elle permet de la supporter et de l'accompagner. Et je pense que c'est extrêmement important que l'on distingue bien l'acte de donner avec tout ce que ça peut représenter pour les uns et pour les autres, et notamment pour le receveur qui a peut-être une dette vis-à-vis du donneur, mais qui peut compenser de différentes manières. Et je pense que la meilleure manière d'établir le lien, la chaîne de solidarité, comme l'a dit Olivier, qui touche le donneur et le receveur, c'est de bien communiquer, c'est de savoir ce qu'on fait, le pourquoi et à quoi ça sert. Et je pense que toutes les organisations de transfusion au monde n'ont qu'un seul but, c'est vraiment de maintenir la vie et de ne jamais abuser du sang prélevé des donneurs et de toujours faire tout son possible pour que ce sang soit utilisé correctement et de manière adéquate. On utilise une expression que je n'aime pas, qui est le bon don pour le bon patient au bon moment, comme s'il y avait des bons patients et des mauvais patients. Non, mais il faut vraiment pouvoir avoir cette vraie médecine qu'on a appelée de précision récemment et qui est vraiment de pouvoir avoir le meilleur donneur possible pour le patient qui a besoin d'un produit sanguin à un moment donné. Et ça, c'est un effort d'humanité que je trouve merveilleux.
Un effort d'humanité qui s'est révélé d'autant plus utile, notamment au moment du VIH. Vous consacrez également un chapitre à la question du sang contaminé. Mais comme c'est énorme, cette question du sang, allez, il y a aussi le sang, pur ou impur, c'est selon, qui coule du corps féminin. Tous les mois, les règles, les menstrues, ce sang qui s'échappe donc chaque mois du corps des femmes en âge d'avoir des enfants est lui aussi symbolique. À ce sujet, je vous propose, cher professeur, d'écouter la grande anthropologue Françoise Héritier qui a beaucoup travaillé sur les fluides du corps et sur leur symbolique dans les différentes cultures. Écoutons-la sur RFI, c'était au micro de Philippe Saint-Denis en 2004.
Le sang des femmes n'est pas un sang gâché. L'idée de souillure féminine par le sang, n'est quelque chose qui n'est pas universel, hein, qui on voit notamment dans les religions révélées. Mais ce qui est certain, c'est que la perte de sang par les menstrues signifie la moindre chaleur du corps féminin. Parce que le corps masculin, lui, ne perd pas son sang, ou il le perd de façon volontaire ou accidentelle. Bon, et à ce moment-là, il a la possibilité de disposer d'une chaleur accrue, et c'est la raison pour laquelle l'opposition chaud-froid, généralement, est une opposition qui connote d'un côté le masculin, le viril qui est chaud, et le féminin, à cause de cette déperdition de chaleur, parce que le sang est le support à la fois de la vie et de la chaleur. Ça fait partie de ces observations des butoirs de la pensée, ces observations liminaires sur lesquelles on n'a pas tellement de prise, parce qu'elles sont là de tout temps, qui fait un rapport étroit entre la vie, le sang, la chaleur et la mobilité. Et ces antonymes, naturellement, la mort, la coagulation du sang, l'immobilité et la froideur.
Nous voilà donc dans la symbolique du sang qui en charrie beaucoup de symbolique. On pense aussi au sang sacré du Christ qui veut réagir à la fois sur ce sang des femmes qui lui coule naturellement tous les mois et qui est plutôt proche de la vie, même si là, en l'occurrence, c'est pour, okay, on ne va pas donner la vie ce mois-ci. Qui veut réagir là-dessus ?
Je vais me lancer, Olivier Garraud.
Olivier Garraud, oui, allez-y.
Alors, oui, c'est un sang qui est particulier parce qu'il est quand même chargé d'opprobre dans nos sociétés. Enfin, c'est extrêmement gênant, ça oblige à
On en a honte encore.
Les femmes ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent faire, sans compter que c'est peut être extrêmement douloureux. Donc, ce sang est compliqué dans nos sociétés. Comme l'a dit Françoise Héritier, je ne suis pas toujours d'accord avec toute sa pensée, mais en l'occurrence, là, elle a dit de belles choses. Et il y a aussi un principe qui est sec et humide chez l'homme et la femme. Et le principe humide de la femme, par exemple, il y a des sociétés comme des sociétés mélanésiennes où au moment de la plantation des légumes sacrés qui s'appellent les ignames, eh bien, les femmes vont aller féconder les champs d'ignames avec le sang de leurs règles, par exemple. Sans ça, et les ignames sont effectivement des légumes sacrés, après, qui vont être offerts dans des cérémonies de type sacrificiel. Donc, c'est un... Vous voyez que ce sang, finalement... Et c'est ça qui est extraordinaire dans le sang, c'est que La façon dont il est sacré est différente selon les latitudes et les longitudes, mais il est toujours sacré à un moment donné dans toutes les civilisations.
Oui, c'est ça. Il est toujours sacré de toutes les manières possibles. Il fait partie de nos mythes, de notre mythologie. Les artistes, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, on y viendra peut-être, consacrent évidemment de nombreuses peintures au sang. C'est vraiment... le sang, ça fait partie de nous et ça dit notre humanité, comme notre inhumanité d'ailleurs. Finalement, ça dit un peu les deux. Jean-Daniel Fissot.
Oui, tout à fait. C'est vraiment ce paradoxe aussi que l'on a. C'est comme on a dans le temps, donc du sang jeune et du sang vieux en nous-mêmes, avec des globules rouges qui changent, qui est mangé, comme le disait Olivier Garot, ou pas mangé. Et je pense que c'est extrêmement important. C'est le regard aussi et le vocabulaire qui va venir. Le sang répandu, cru d'or, cruel est là. Et puis, il y a le sang sanguis qui est le sang vivant. Donc, même le vocabulaire fait cette différence très forte entre cette double tension qui est celle de la vie et de la mort qui est toujours associée à ce sang. Je rajouterai une chose concernant les menstruations qui me paraît aussi intéressante sur le plan biologique. Pas mal de chercheurs ont mis en évidence dans le sang menstruel des cellules souches pluripotentes qui pourraient avoir un avenir extrêmement intéressant pour la médecine de transplantation, la médecine régénérative peut-être. Mais justement, l'origine de ce sang menstruel a une connotation qui fait qu'il n'y a que quelques rares banques de sang menstruel qui ont été créées à travers le monde, qui récupèrent justement ce sang et ce potentiel de vie en lui-même, le sang menstruel, non seulement dans sa symbolique, mais dans le réel, a un potentiel de vie tout à fait intéressant. Et je pense qu'on doit reprendre toute une vision de la biologie du déchet. Quand on voit le microbiote qui est là, qui est extrêmement utile avec toutes ces bactéries qui sont dans notre tube digestif que nous éliminons à travers les selles, qu'on considère vraiment comme quelque chose de répugnant, eh bien non, c'est quelque chose qui fait partie. La vie et la mort sont un ensemble continu et nécessaire à la vie et à la poursuite de la vie. Et donc, ce sang menstruel doit être respecté. J'entendais encore, et je terminerai juste par cette anecdote, c'est que de Coubertin, quand il a créé les Jeux Olympiques, a éliminé toute participation féminine, notamment au regard des règles. Et je trouve extraordinairement intéressant que des femmes aient eu le courage de faire des Jeux qui n'étaient pas olympiques, qui n'avaient pas le droit de porter ce nom, mais manifestant à ce propos et à cet égard une volonté de liberté indépendante du cycle qui est là et qui est nécessaire à la vie. Moi, je pense qu'on doit être respectueux de ces menstruations qui sont l'expression même d'un potentiel de vie.
Oh, merci de le dire, Jean-Daniel Tissot, autour de la question « Pourquoi le sang n'est pas un fluide comme les autres ?» On écoute Radio Elvis sur RFI, le sang et la sueur.
Quelque chose de sauvage, je le sais, nous anime quand nous construisons nos feux, souvent à bout de force, dans l'espoir d'être vu encore entier. Et nos brasiers en vain percent des trouées dans la lente mesure du temps. La violence de la mort, son image arrêtée, la sueur et le sang, la sueur et le sang. J'aurais tant donné aux heures assassinées à contempler le vide. Quand la valse des cris palpitait à mes tempes dans la sueur et le sang, à chercher ta voix qui me dit: tu n'es pas tout seul, non, tu n'es pas tout seul, non, tu n'es pas tout seul. Et si je suis vivant, je ne suis finalement que ta sueur et ton sang. Ta sueur et ton sang.
La sueur et le sang, Radio Elvis sur RFI, autour de la question du sang. Il était une fois le sang. C'est le titre de l'ouvrage formidable de nos invités, les professeurs Olivier Garot et Jean-Daniel Tissot, qui sont en duplex avec nous, respectivement depuis Limoges et depuis Lausanne, pour partager tout ce qu'on sait, mais aussi tous les mystères et toutes les promesses aussi, hein, que charrie notre sang, qui ne coule pas que sur les tables d'opération. La preuve tout de suite sur grand et petit écran avec ce mix hémoglobine au cinéma, diffusé sur Arte.
Du sang au cinéma, il en coule. Du sang rouge dans Twin Peaks, du sang noir dans Amityville, du sang blanc dans Sin City, ou du sang bleu dans Virtuosity, du sang qui coule du crâne dans La Mauvaise Éducation, des oreilles dans La Sagesse des Crocodiles, des yeux dans Frayeur, ou du nez dans Tip Top, du sang un peu dans Rio Bravo, beaucoup dans Hollow Man, passionnément dans Conversation Secrète, ou à la folie dans Shining. Bref, du sang au cinéma, en veux-tu, en voilà. De quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question.
La question du sang, il y en a effectivement beaucoup au cinéma, ça c'est vrai. Alors pourquoi et comment et que traduit ce goût du sang? Alors non seulement au cinéma, mais aussi dans toutes nos représentations, dans les œuvres d'art, dans les peintures notamment, que vous avez beaucoup étudiées, je crois, Olivier Garot.
Alors oui, depuis quelques années, c'est vrai que j'ai mené avec Jean-Daniel, avec sa complicité amicale, pas mal de travaux de recherche sur ce que signifiait le sang. Alors je pense que le sang, cinéma et peinture sont peut-être pas forcément sur le même plan. Mm-hmm. Je pense que dans le cinéma, il y a comme dans la littérature, les thrillers, les polars, etc., il y a un effet cathartique. C'est-à-dire, en fait, ce que je vois au cinéma, ce que je lis dans les livres ne m'arrivera pas. Ce n'est pas le vrai monde. Donc, je suis protégé. Et du coup, on arrive à voir au cinéma des choses absolument épouvantables sans s'évanouir, alors qu'en fait, votre gamin se coupe le doigt et la même personne qui sort d'un film de gore peut très bien tomber dans les pommes.
On est d'accord. Donc, on joue à se faire peur, hein, en fait, avec ce qui nous fait peur avec le sang.
Voilà. Donc, c'est cathartique. En peinture, c'est différent. Je pense qu'il y a un pan d'histoire, en fait, qui se révèle sur les toiles, parce que... La peinture dans les siècles, elle raconte finalement les mœurs, elle raconte la religion, elle raconte énormément de choses. Elles peuvent participer à la protestation et en particulier, moi j'ai été très intéressé par les transitions, si vous voulez, entre le sang médiéval, le sang du début de la Renaissance, en particulier religieux, parce que la peinture était essentiellement religieuse à ce moment-là. Et on voit, par exemple, je ne sais pas si vous avez en tête, dans certains musées, des agneaux qui représentent le Christ, et on voit de temps en temps des agneaux qui saignent d'une plaie, d'un joli sang rouge qui s'écoule dans un calice richement décoré, entouré de fleurs, de fruits, des personnes qui dansent autour. Donc c'est un sang joyeux.
C'est du sang joyeux, d'accord.
C'est un sang joyeux. Et puis quelques années après la réforme protestante en particulier, on voit apparaître des Christs très torturés, etc. Et le pire du pire en matière de Christ torturé, c'est le film de Mel Gibson. Alors là, on revient au cinéma, mais où on voit un
sang terrible, douloureux, un sang de martyr. Écoutez, je vais être obligée de vous interrompre, mon cher Olivier Garot, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, j'ai envie d'en refaire une autre. Est-ce que vous voulez nous dire un mot de fin, de conclusion, Jean-Daniel Tissot? Je pense qu'il faut qu'on refasse une émission sur le sang, on n'a pas fini. Mais un petit mot de conclusion peut-être?
Mais très court, volontiers. Le sang est un objet de vie, mais c'est un sujet d'étude magnifique.
Ah, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci, professeur Jean-Daniel Tissot, d'avoir été donc en duplex avec nous depuis les radios de la radio-télévision suisse à Lausanne. Merci d'ailleurs à la technique à Lausanne, à Frédéric Koller. Merci, professeur Olivier Garot, d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Limousin à Limoges. Et je rappelle le titre de votre ouvrage à nul autre pareil. Il était une fois le sang, il révèle notre santé et notre hérédité aux éditions Humaine Science. Il nous reste un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. Et avec un peu de chance, votre sang ne fera qu'un tour et vous serez l'heureux ou l'heureuse gagnante. Qui sait ? Ce que je sais, c'est que vous revenez quand vous voulez, Olivier Garot et Jean-Daniel Tissot, parce qu'on n'a pas fini de parler du sang. Merci à Hugo Violas de l'autre côté de la vitre qui a assuré tous ces duplex. Merci à notre stagiaire Sybille Bulou, à qui on dit un grand au revoir, mais on la retrouvera bientôt. Et à Caroline Fillette en coulisses, bien sûr. Chers amis auditeurs, merci pour votre curiosité. Le journal dans une minute.
7 milliards de